Vous écoutez RTL.
C'est un secret énorme qui pèse sur ces trois morts, sur celle d'Aloïs Esterman, tout nouveau commandant de la garde suisse pontificale, ainsi que sa femme et le caporal Cédric Tornet. Toute l'Italie regarde incrédule le Vatican, sa cité protégée, s'ouvrir aussi à la violence.
Bonsoir, meurtre au Vatican. Trois corps retrouvés dans un logement à quelques dizaines de mètres seulement des appartements privés du pape, des coups de feu et un coup de folie attribué à un jeune garde suisse, le vice-caporal Cédric Tornet. C'est lui qui aurait abattu dans un moment de grande détresse son supérieur hiérarchique et son épouse. C'était au mois de mai 1998 et cette version, la version du Saint-Siège, n'a jamais varié d'un pouce. Cédric Tornet a toujours été considéré comme l'auteur du double meurtre au terme duquel il se serait suicidé. Explication officielle qui ne résiste pourtant pas à une multitude d'interrogations. Une scène de crime qui ne correspond pas aux constatations des experts. Un suicide qui n'en serait pas un. Une lettre d'aveu tellement parfaite qu'elle aurait été fabriquée après la tragédie. Et puis ce silence épais, obsédant, qui règne depuis 22 ans sur cette affaire. Autant de doutes que nous avons ce soir décidé d'explorer avec nos invités. Existe-t-il d'autres scénarios pour expliquer ce drame? Et détient-on vraiment la preuve que le jeune vice-caporal était l'auteur de ces crimes? Que s'est-il passé derrière les murs épais du Saint-Siège?
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir donc dans l'heure du crime, meurtre au Vatican. Depuis l'époque des Borgia à la fin du XVe siècle, le sang n'avait pas coulé de cette façon derrière les fenêtres donnant sur la place Saint-Pierre jusqu'à ce soir de printemps 1998. Dans la soirée de ce lundi 4 mai 1998, le colonel Aloïs Esterman et son épouse Gladys Mezza sont dans leur appartement au deuxième étage du Vatican, à proximité de la porte Sant'Anna. Esterman est un homme heureux. Le matin même, il a appris qu'il allait avoir enfin le poste qu'il convoitait, devenir le 31e commandant des gardes suisses, la garde rapprochée ancestrale du pape. La nomination était bloquée pour des questions juridiques, mais Jean-Paul II, en personne, a fait sauter toutes les réserves. Il faut admettre que Aloïs Esterman, 43 ans, n'est pas n'importe qui. Le 13 mai 1981, place Saint-Pierre, jeune recrue de la garde suisse, il avait bondi pour faire rempart de son corps alors que le pape venait d'être touché par un coup de feu. Le Saint-Père, miraculé, n'avait cessé de célébrer son courage. Ce 4 mai au soir, tout le monde félicite Esterman de sa nomination. Aux alentours de 21h, il est au téléphone avec l'un de ses amis. Quand la porte de l'appartement s'ouvre, le colonel n'a pas le temps de raccrocher. Des coups de feu, clac. Aucun témoin de cette scène que le Vatican va ainsi reconstituer. L'un des gardes subordonnés d'Aloïs Esterman, le vice-caporal de la garde suisse Cédric Tornet, 23 ans, aurait fait irruption dans l'appartement en tenant son arme de service, un pistolet SIG 75 9 mm. Il aurait d'abord fait feu sur le colonel en train de téléphoner, une balle dans la joue gauche allant se loger dans la moelle épinière, une deuxième dans l'épaule gauche. L'épouse, Gladys Mezza, employée à l'ambassade du Venezuela à Rome, se serait précipité. Cédric Tornet aurait à nouveau tiré, la tuant sur le cou. Après avoir abattu le couple, le jeune garde suisse se serait agenouillé et se serait tiré une ultime balle dans la bouche. Un suicide accrédité, dit-on, par la découverte de son pistolet sous son corps. Le bruit a vite attiré du monde vers l'appartement du deuxième étage, une scène de crime rapidement envahie par des gardes suisses, des gendarmes du Vatican, des prélats et puis les secours. Un témoin direct parle d'une scène de crime saccagée avant même que des constatations soient effectuées. 3 heures seulement après la tragédie, aux alentours de minuit, le Vatican est déjà en mesure de révéler ce qui s'est passé dans ce huis clos. Enquête express, le directeur de la salle de presse du Vatican, Joaquin Navarro Valls, évoque un ruptus de folie de la part du vice-caporal Tornet. Un coup de folie dévastateur. Il est l'auteur du double meurtre, explication qui ne variera pas. L'enquête est confiée à la gendarmerie vaticane, dirigée par l'inspecteur général Camillo Chibin. Le Saint-Siège fait savoir qu'il ne fera pas appel à la police italienne pour régler ce cas. La brigade criminelle ou la police scientifique ne seront pas sollicitées. Il n'existe pas d'éléments qui permettent de demander l'aide judiciaire de l'Italie, précise alors le porte-parole. Deux jours après le drame, les trois cercueils sont exposés dans la chapelle dédiée à Saint-Martin. Le pape s'agenouille et prie devant les dépouilles. Les funérailles du couple Esterman auront lieu le soir même, celle de Cédric Tornet le lendemain. Le Vatican semble pressé d'en finir avec cette tragédie survenue derrière ses murs. Le scénario des crimes a été très rapidement établi. Les autorités du Saint-Siège présentent illico presto le vice-caporal Tornet comme un garçon instable et tourmenté. Il n'aurait pas supporté d'être exclu d'une remise de médaille, la Benemerenti, médaille du mérite, décoration remise aux gardes suisses qui ont passé 2 ans au Vatican. Tornet n'était pas sur la liste des récipiendaires. Il n'était pas invité non plus à la cérémonie qui devait introniser le 6 mai Alois Esterman à la tête des gardes suisses. Les rapports entre le colonel et le vice-caporal se seraient détériorés. Deux hommes qui ne se ressemblaient sur aucun point. D'un côté, un gradé rigide, baigné de foi catholique. De l'autre, un subordonné pas forcément versé dans la religion et prenant la vie au Vatican à la légère. Esterman l'aurait rappelé à l'ordre à 2 reprises. Dans un rapport, il fait état d'un garçon peu équilibré, arrogant et sans jugement. Cédric Tornet est encore présenté comme un jeune homme irrévérencieux qui fumerait des joints et se moquerait de la discipline. Les enquêteurs du Saint-Siège, qui ont rapidement perquisitionné la chambre du meurtrier présumé, affirment avoir découvert une boîte de pellicules photo avec 24 mégots à l'intérieur, des restes de cannabis. Ils ont également mis la main sur une lettre manuscrite. Celle-ci a tout d'une confession. Cédric Tornet évoque la médaille Benemerenti qui lui a été refusée. De toute évidence, cette affaire a suscité chez lui une vague de ressentiment. « La seule chose que je voulais, ils me l'ont refusée », écrit-il. « J'ai juré de donner ma vie pour le pape et c'est ce que je fais », ajoute le garde suisse. À sa famille, il dit s'excuser de la laisser toute seule, mais son devoir l'appelle. À sa mère, Muguette, il dit « J'espère que tu me pardonneras car ce que j'ai fait, ce sont eux qui m'ont poussé. Gros bisous à la plus belle maman du monde, ton fils qui t'aime ». Cette lettre a été glissée dans une enveloppe au nom de Muguette Chamorel, le nom du deuxième mari de sa mère, un nom de famille que Cédric n'utilise jamais. La mère de Cédric va confier le courrier à des experts graphologues. Ces derniers vont émettre des doutes sur son authenticité. Vu le nombre d'erreurs et d'incohérences répertoriées, il pourrait s'agir d'une contrefaçon. Des questions qui ne vont pas en rester là, d'autres vont porter sur la scène de crime, la position des corps et une introuvable autopsie. 9 mois après le drame, le 5 février 1999, le juge instructeur du tribunal du Vatican, Gianluigi Maroni, conclut au classement du dossier Esterman Tornet. Le magistrat confirme point par point la version présentée par les autorités du Saint-Siège, celle d'un double meurtre suivi du suicide de l'auteur, le vice-caporal Tornet. Il n'y a pas lieu d'engager une action pénale, l'affaire va donc en rester là. Une 10aine de pages seulement du rapport d'enquête sont alors rendues publiques. On y apprend que le meurtrier présumé souffrait d'une anomalie mentale. Lors de l'autopsie, les légistes auraient décelé la présence dans son crâne d'un kyste de la taille d'un œuf de pigeon. Celui-ci comprimait le cerveau et pourrait avoir altéré son comportement pour le Vatican. Tout temps à prouver que le vice-caporal était atteint d'hallucinations, de crises de discernement, de pensées confuses et désorganisées. Des conclusions réfutées par la mère de Cédric Tornet qui confie au journal Il Messaggero. Les 3 morts du 4 mai 1998 sont les victimes d'une machination. Après le rapatriement du corps de Cédric Tornet en Suisse, la mère du vice-caporal saisit l'Institut médico-légal de Lausanne pour des analyses plus approfondies. Le professeur Thomas Krompecher rédige un rapport et note de nombreuses anomalies. Aucune vertèbre n'est fracturée sur le corps du garde suisse. S'il avait eu la tête en avant et se serait tiré une balle dans la bouche, Il en serait tout autrement. La balistique suscite également des interrogations. Le trou de sortie du projectile 7 mm ne correspond pas avec l'arme de service qu'il aurait utilisée pour se suicider. La balle remise à la mère de Cédric Tornet, balle qui aurait causé sa mort, est totalement intacte, alors que selon les experts, elle aurait dû être en partie écrasée. Le professeur Krompecher va demander à son homologue du Vatican une copie de la première autopsie. Entre sommité médicale, ce genre d'échange est une habitude, sauf que dans le cas présent, le médecin suisse n'obtiendra jamais aucune réponse. À ce jour, cette autopsie et la plus grande partie du dossier d'enquête n'ont jamais été communiquées à la famille de Cédric Tornet ni à ses avocats. Face au silence du Vatican et après une enquête bouclée en un temps record, les spéculations vont aller bon train. Mise en scène pour étouffer un scandale, intérêts financiers, affaires de mœurs, autant de scénarios envisagés. Les années se suivent et le dossier Cédric Tornet s'enfonce de plus en plus dans le mystère. En l'absence d'éléments fournis par le Vatican, notamment le fameux rapport d'enquête du juge Gianluigi Marone, pièce protégée, confidentielle, les doutes grandissent. Des questions se posent ainsi sur l'homme qui était visé dans cette tuerie, le colonel Alois Esterman, le sauveur du pape après l'attentat sur la place Saint-Pierre. Il était l'une des rares personnes à être dans les petits papiers du Saint-Père, au point d'être informé de certains secrets. Proche de l'Opus Dei aussi, Esterman, la branche radicale de l'Église catholique, aux premières loges pour suivre la déconfiture du Banco Ambrosiano, un scandale financier de grande ampleur touchant le Vatican. Un journal allemand, le Berliner Courier, va aller encore plus loin en révélant que Alois Esterman avait été à une époque recruté par les services de renseignement est-allemand, la Stasi, révélation a priori rocambolesque, mais qui sera pourtant approuvée par l'ex-chef du contre-espionnage italien, l'amiral Fulvio Martin. Et puis, cette information encore, quelques jours avant le drame, le colonel Esterman aurait émis le vœu de se retirer au Venezuela, patrie de son épouse, car il craignait pour sa vie, bref, beaucoup de questions pour un seul homme. D'autres interrogations vont également rester sans réponse. Pourquoi cette visite de deux émissaires du Vatican auprès de la mère du jeune garde suisse pour lui demander de ne plus se mêler à l'enquête? Pourquoi, juste après la mort de son fils, un prélat aurait encouragé cette même mère à faire incinérer le corps de Cédric alors que l'Église catholique ne préconise jamais une telle démarche? Pourquoi encore, lors des obsèques, un jeune diacre français proche du Vatican se serait exclamé « Ils l'ont tué » en parlant du vice caporal, cet homme qui aurait détenu des documents pouvant prouver que Tornet était une victime, ne souhaitera plus jamais commenter l'affaire. Un prélat originaire de Bayonne écrira en 2001, sous le sceau de l'anonymat, que Cédric Tornet avait été tué et que le jeune diacre possédait les pièces attestant de ce crime, affirmation qui ne connaîtra pas de suite. Malgré les doutes, le Vatican va rester sourd aux demandes de la famille de Cédric Tornet, comme si le Saint-Siège, après avoir très rapidement tourné la page des meurtres, désirait que le livre entier soit refermé. 22 ans sans jamais avoir pu obtenir les pièces de la procédure Westermann-Tornet. Dès l'année 2002, les avocats de la mère de Cédric Tornet, désignés comme le meurtrier, à l'époque, maître Jacques Vergès et Luc Brossolet avaient demandé publiquement au Vatican la réouverture de l'enquête. Les deux défenseurs dénonçaient alors, je cite, « les secrets, silences et mépris du Saint-Siège ». Des défenseurs qui parlaient d'un déni de justice et déploraient les accusations lancées contre le vice-caporal sans que des preuves ne soient présentées. Le 27 avril 2002, maître Vergès, habitué des coups d'éclat, avait prévenu « si nous devions nous heurter à une surdité entêtée du Vatican, nous porterions l'affaire devant un tribunal suisse car Cédric Tornet était un citoyen helvétique ». Les années ont passé et force est de constater que le Vatican n'a jamais répondu aux sollicitations des avocats et de la famille de Cédric Tornet. Le pape Jean-Paul II n'avait ainsi donné aucune suite à ses demandes. En novembre 2008, la mère de Cédric Tornet avait saisi la justice suisse en déposant une plainte pour meurtre. Quelques semaines plus tard, le parquet de Genève classait l'affaire. Un témoignage ou un fait nouveau pourrait-il faire rebondir le dossier? Merci beaucoup Muguette Boda, Luc Brossolet et Yvonique De Noël d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec Meurtre au Vatican, une vérité officielle qui n'est pas forcément la vérité, une affaire sous le sceau du secret. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Vivian Lecuivre à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir une nouvelle fois avec nous cette heure du crime.